15h.
Il est 15h.
Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Ces affaires-là, c'est un peu comme des territoires inexplorés. Il y a cet espace sombre et plus humain, on se sent, et moins démuni face à la mort inéluctable. On ne comprend pas grand-chose au monde dans lequel on vit, honnêtement. On écoute les nouvelles, mais qu'est-ce qu'on maîtrise au fond ? Et ça, peut-être, ce sont quelques espaces sur lesquels on peut, à un moment donné, avoir le sentiment d'exercer une certaine maîtrise. À force de promener des torches comme ça et de poser de l'éclairage, de la lumière là où il n'y en avait pas avant, peut-être que j'ai l'illusion de maîtriser les choses. Moi, j'essaie, je suis face à un casse-tête. Je pense que Jacques Sals, dans cette affaire-là, a joué un rôle. C'est mon intime conviction, je ne peux pas l'adosser à une découverte précise ou à des faits vraiment précis, mais c'est un ensemble de choses, un sentiment.
Stéphane Troplin, comment va se terminer cette enquête ?
Je pense qu'elle ne va jamais se terminer. Se terminera forcément avec moi, un jour ou l'autre.
Est-ce que vous vous engagez déjà dans une cause que vous considérez comme perdue ?
Je pense que si je la considérais vraiment comme perdue, je laisserais tomber. Apporter de la lumière dans cette affaire ancienne dont tout le monde se fout aujourd'hui, j'ai du mal des fois vraiment à comprendre pourquoi je continue. C'est au fond, est-ce que j'aimerais vraiment un jour qu'on me dise ce qui s'est réellement passé ce soir-là ? Je me dis parfois que les vérités, elles sont décevantes. Elles sont parfois plus décevantes que la recherche elle-même. Même si comprendre certaines choses, ça me passionne. De tirer un pan de tissu sur quelque chose qui restait à couvert, ouais, ça c'est quand même quelque chose de... on peut pas décrocher de ça, ça c'est pas possible.
L'homme que l'on entend s'appelle Stéphane Troplin et il est perdu depuis plus de 20 ans dans une affaire criminelle du siècle dernier où tous les personnages ont disparu. Au départ, il s'agissait de défendre un homme, injustement enfermé pendant 41 ans. Cet homme, qui a défrayé la chronique pendant les années yéyé, s'appelle Lucien Léger. Il est accusé d'avoir tué un enfant. Persuadé de son innocence, Stéphane Troplin devra remonter le temps et enchaîner les hypothèses. Dans ce labyrinthe, un homme apparaît. Jacques Sals, Jacques le Gallois, Guy Hermin ou Henri Sals. Héros de la Résistance, il devient au fil des archives psychologue clinicien, décorateur, publicitaire, militant, statisticien, collectionneur d'art ou célèbre graphométricien. C'est cet homme que Lucien Léger accusera pendant 35 ans d'être l'assassin du jeune Luc Taron, victime collatérale d'un conflit entre espions. Sals, lui, ne sera jamais inquiété. Sa respectabilité de grand résistant, d'homme de lettres et de culture, le met hors de tout soupçon. Sauf que... Avec le journaliste Jean-Louis Ivani, l'écrivain Philippe Génada et son indicatrice Watts, ils vont découvrir un parcours totalement incohérent et rivaliser d'inventivité pour donner du sens à cette biographie. Dans ce film noir, les quatre victimes, consentantes, vont se perdre, au risque de basculer dans l'imaginaire. Sals, homme de l'orgueil, homme du défi, de l'intrigue et du secret, ne semble plus exister que pour semer le trouble, égarer, accumuler les titres et entretenir la confusion. Face à l'énigme, ces enquêteurs vont se retrouver face à un miroir et vont devoir dévoiler, par leur hypothèse, leur propre subjectivité, leur sensibilité, leur psyché. Jacques Sals, le réel et l'imaginaire. Un documentaire en deux parties de Jérôme Massella. Première partie, les égarés. Stéphane Troplin, comment toute cette histoire a commencé ?
Alors en 2004, j'étais à l'époque administrateur du Monde Libertaire, l'hebdomadaire de la Fédération anarchiste, suite à un article que le Monde Libertaire avait publié au sujet des prisonniers d'Action Directe. Bon, je recevais régulièrement beaucoup de courriers de différentes personnes, et en l'occurrence, ce prisonnier nous écrit une lettre en attirant notre attention sur le cas d'un autre prisonnier, alors qu'il n'était pas du tout politique, lui, détenu à l'époque depuis bientôt 40 ans. Lucien Léger. Alors au départ, le nom de Lucien Léger me dit rien. L'affaire me paraît alors déjà assez délicate, puisqu'il est question de la mort d'un enfant. Alors là, on est très loin d'Action Directe. Et en même temps, quelque autre chose, un autre élément qui me surprend, c'est la constance avec laquelle le condamné a clamé son innocence. La vérité défendue par Lucien Léger est de nature à interpeller, encore une fois, n'importe qui a un esprit un peu tourné vers le romanesque. C'est un peu mon cas, hein, je ne veux pas m'en cacher. Le 26 mai 1964, Luc Taron sort de chez lui après l'école, rue de Naples à Paris, hein, on est dans le 9e arrondissement de Paris. Donc Luc Taron disparaît, à partir de là, il se volatilise. Le lendemain, petit matin, vers 5h, le 27 mai 1964, on va découvrir son cadavre dans la forêt de Verrières-le-Buisson à Igny. Donc on est en banlieue parisienne, on est à une petite trentaine de kilomètres de Paris. Et un message va être apposé sur le pare-brise d'une de chevaux revendiquant la mort de Luc Taron. Les policiers vont communiquer le message à la presse pour éventuellement déclencher des témoignages. On ne sait pas trop pourquoi ils le font, mais en tout cas, ils vont le faire. Et à partir de là, l'affaire va vraiment partir, va devenir vraiment l'enquête criminelle la plus spectaculaire menée en France, où un scripteur va s'emparer de l'ensemble des médias et va mener une danse macabre durant un mois, avant d'être finalement arrêté. Ce sera Lucien Léger. Lucien Léger arrêté en 1964, il fait des aveux complets. Pour expliquer son geste, Lucien Léger va simplement dire qu'il ne sait pas ce qu'il lui a pris. Donc là, tout de suite, effectivement, ça m'intéresse, hein, le fait que ce soit unique. Alors, quand je commence à explorer les archives presse, j'ai eu rapidement un contact avec un abonné du Monde Libertaire qui s'appelle Jean-Louis Ivani.
Au départ, moi, la sympathie pour Léger, je dirais que je l'ai eu tout de suite parce que j'ai vu à la télévision, quand j'avais 17 ans, une foule qui voulait lyncher un homme. Il avait deux policiers en tenue pour le protéger. Il y avait à peu près 1000 personnes pour le lyncher. En 64, je pensais qu'il était quand même... C'était lui l'assassin, je pensais comme tout le monde. Mais ça m'avait choqué.
Jean-Louis étant un témoin de ces années 60, pour moi, les années 60, c'est de l'histoire, vraiment. Hein. Je lui propose qu'on travaille ensemble sur les archives. Et là, donc, on voit apparaître Jacques Salles. Jacques Salles, il apparaît d'abord par une lettre qu'il adresse à Lucien Léger, alors qu'il est incarcéré. Une lettre un petit peu curieuse. Alors, je ne sais pas si elle est curieuse, parce qu'elle paraît banale, hein, comme ça, on la lit, et puis... Il s'adresse à un ami, hein, manifestement, et il demande à cet ami en quoi il peut lui être utile. Mais surtout, il dit que je ne crois pas que vous soyez coupable, alors que personne ne lui a rien demandé, et que Lucien Léger, à ce moment-là, a avoué devant les enquêteurs, devant le juge d'instruction. Bon, Lucien Léger lui répond, et là aussi, sa lettre paraît curieuse, comme avec un double niveau. Lucien Léger répond à un ami. Et puis il dit comme ça, on s'avance dans le noir, on voit plus rien. À un moment donné, on nous dit tu as fait ça parce que tu ne peux plus rien dire d'autre, et on devient coupable d'un crime.
Jean-Louis Ivani, avec Stéphane Troplin, vous avez donc commencé à écrire Le voleur de crime. Au début de l'enquête, que comprenez-vous de la personnalité de Jacques Salce et de sa place dans la vie de Lucien Léger ?
Écoutez, moi je pense que la place de Jacques Salce est importante. Il y a une rencontre. Et la rencontre, c'est celle de deux hommes en 62, c'est-à-dire en plein Trente Glorieuses, c'est-à-dire un an après la fin de la guerre d'Algérie. Une sorte de Don Quichotte et Sancho Panza, un homme de 40 ans, diplômé, ancien résistant, ancien déporté. Et en face, si je puis dire, il y a un petit jeune homme de province. La rencontre, elle a lieu grâce à un hebdomadaire, c'est l'Express, le 28 juin 1962. Le courrier des lecteurs de cet Express publie une lettre d'un jeune homme qui raconte sa vie très difficile à Paris, avec ses petits salaires, avec sa femme malade déjà, qui ne peut pratiquement jamais travailler, ou ça ne dure pas longtemps. Ils vivent à l'hôtel, et il raconte par le menu toutes les dépenses de survie qu'il doit faire sans être complètement à la rue ou en danger. L'Express le publie, et dès le numéro suivant, on a un autre lecteur qui lui réagit à ce courrier. Et lui, il dit, écoutez, moi aussi, je vis à l'hôtel. Et il dit, c'est un fléau, c'est extraordinaire, ce garçon. Vous savez qu'il y a en France 450 000 familles qui sont dans la situation de Lucien Léger, et même souvent bien pire. Je serais heureux que vous fassiez savoir à vos lecteurs, puisque vous avez titré intuitivement la lettre de Lucien Léger, un cas isolé, point d'interrogation, qu'il y a officiellement 450 000 familles, dans ce cas, dans un cas très similaire à Paris. Dans la France entière, cela monte à plusieurs millions, mais ce qui n'intéresse personne, les Français ne prêtent plus attention à cette crasse humaine qui affleure les abords rutilants de leur confort. Je cite, parce que c'est tout Salce. Salce, il est à la fois précis, il donne des chiffres, et en même temps, il a le verbe haut. Dès le mois d'août est créée l'Association pour la défense des travailleurs métropolitains mal logés ou sans logis, avec un président, Lucien Léger, et un trésorier, Jacques Salce. Et ils vont se voir plusieurs fois, et ça va faire un tandem, voire un couple. Ce tandem, il va fonctionner pas très longtemps. Il va fonctionner qu'un an, mais à temps plein.
Qu'est-ce que vous apprenez sur Salce pendant votre enquête à deux avec Stéphane Troplin ?
On apprend d'abord cette personnalité. Salce, il est à la fois scientifique, il travaille pour la publicité, il est poète, il est écrivain, il est journaliste, et il a trois noms. Il y a Jacques Salce, il y a Guillaumin, et il y a Le Gallois. Le Gallois, c'est celui qui écrit le bouquin
Combat pour nos
cadavres. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve dans le bagne allemand où un médecin, style Mengele, lui inocule la lèpre. Ça, c'est une multitude de cartes de visite. Vous voyez, c'est ça qui m'a impressionné.
Alors donc, pour expliquer cette rencontre nocturne, vers 11h, Lucien Léger va expliquer qu'il a vu un enfant dans le métro qui lui semblait un peu désemparé, qu'il a d'abord voulu lui venir en aide, et qu'il a essayé de le faire revenir chez lui, mais l'enfant voulait plutôt faire une balade en voiture, ce qu'ils vont faire jusqu'au bois de Verrières, et là, éclipse de conscience, Lucien Léger étrangle Luc Taran. Bon, ça, ce sont les aveux qu'il va réitérer à de nombreuses reprises au cours d'une instruction qui va durer un peu plus d'un an. Et au cours de cette instruction, en 1965, Lucien Léger va revenir sur ses aveux et là, va dévoiler une vérité tout à fait différente, où il est question d'un tiers, d'abord nommé Henri, ensuite Henri Molinaro, qui a eu des ennuis avec le père de Luc Taran pour une histoire d'argent et que pour faire pression sur Yves Taran, il a enlevé son enfant et... au cours de la soirée, les événements ont mal tourné et Luc Taran est mort accidentellement. Lucien Léger prétend à ce moment-là avoir voulu protéger son ami. Il dit qu'entre eux, il existe une amitié très importante, très forte, pour lui, il était hors de question de le dénoncer, mais qu'aujourd'hui, se dénommer Henri avait la possibilité de le faire sortir, au moins d'apporter de manière anonyme une preuve de son innocence. Il ne l'a pas fait. Lucien Léger, maintenant, reprend un peu les rênes et dévoile ce qui doit, d'après lui, être la vérité.
Et ça va aller jusqu'à au procès en mai 66, où il y a peu de témoins de la cités par la défense, mais il y en a un, et c'est Sals, ancien résistant. C'est-à-dire qu'en plus, il s'exprime très bien. C'est un charmeur. En fait, l'expert le plus intéressant de ce procès, c'est Sals. Alors qu'il y a une ribambelle avant, qui sont des sommités depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est François qui suit le procès, qui parle du très pittoresque Monsieur Sals.
Lucien Léger est condamné à perpétuité. Ensuite, passé le procès, Jacques Sals disparaît complètement de la scène. Voilà. Jacques Sals réapparaît dans les années 70. On a les éléments de courrier de la femme de Lucien Léger, Solange, où elle parle d'abord d'un JS, ensuite Jacques Sals, nommé, comme du meurtrier de Luc Taron. Elle l'aurait vu, ils auraient discuté, il l'aurait reconnu, elle l'aurait imploré de venir en aide à Lucien par n'importe quel moyen. Il aurait répondu qu'il n'en était pas question, qu'il fallait qu'elle se tienne tranquille, que sinon il allait lui arriver des ennuis. Plus tard, je tombe sur les courriers de Lucien Léger au moment où sa femme meurt, puisque Solange Léger meurt en janvier 1970. Lucien Léger a présenté la mort de sa femme comme suspect. Il n'a pas dit qu'il s'agissait nécessairement d'un meurtre, j'ai tout envisagé, hein, elle était fragile, elle était de santé fragile. À l'époque, c'était en janvier, il faisait froid, la grippe sévissait, c'est possible aussi qu'elle ait été très malade. Je n'exclus rien, y compris la possibilité qu'elle ait été supprimée. Et je tombe donc sur la lettre qu'il va écrire au procureur, où là, il donne pour la première fois le nom de Jacques Sals. Il présente Jacques Sals comme étant le véritable meurtrier, le véritable auteur de la mort de Luc Taron. Il explique que Henri Molinaro et Jacques Sals, donc deux membres du fameux réseau qui avaient des ennuis avec le père de Luc Taron, en l'occurrence une somme d'argent qui avait été dérobée au réseau, 15 000 francs nouveaux. Donc les deux hommes ont décidé d'enlever son fils. Ils n'avaient pas l'intention de lui faire de mal, mais ils avaient l'intention de faire pression sur le père. Et puis en fait, en cours de chemin, ils ont plutôt décidé de le lâcher dans la campagne. L'enfant s'est mis à crier. Et Jacques Sals, pris de panique, aurait voulu le faire taire et lui aurait plaqué le visage contre la terre sur le bas-côté de la route. Il l'a maintenu trop longtemps, l'enfant ne bougeait plus, Luc Taron était peut-être mort, en tout cas les deux hommes ont paniqué, ils l'ont remis dans la voiture, ils l'ont transporté aux abords d'un bois, pas très loin, et sont repartis ensuite dans la capitale où ils ont retrouvé Lucien Léger pour lui demander un alibi. Cette version-là, on peut la battre en brèche parce qu'elle est évidemment contestable sur plusieurs aspects, en tout cas très largement questionnable. Il n'empêche que de 1970 à 2008, Lucien Léger va maintenir ce rôle joué par Jacques Sals.
Et donc il dit, il accuse son ancien compagnon d'armes.
D'ami, qui est peut-être le meilleur. Et puis pendant un an, ils ont été très amis, mais il l'accuse. Alors, je sais pas. Moi, je ne crois pas à la version de Lucien.
Vous voyez pas Sals tuer un enfant ?
Ben non, Sals, c'est pas. Sals, c'est ce qu'il fait quand même. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Là, j'ai pas de réponse. Je n'y crois pas. C'est surtout la version de Lucien qui me dérange, quoi. Sals au milieu, qu'est-ce qu'il en a fait ? Sals, il veut la lumière, il veut pas l'ombre, il veut pas être un réseau d'enseignement, il s'en fout. Ou alors, c'est une histoire, mais alors...
Le réseau dont parle Lucien Léger, alors lui, il dit que c'était un réseau qui recueillait des renseignements de l'OTAN et que ces renseignements étaient ensuite transmis par différents canaux jusque dans les pays de l'Est, voire jusqu'en Chine. Là, je sens qu'on rigole au fond de la salle. Je trouve moi-même que tout ça est bien rocambolesque. D'abord, Henri Molinaro jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il a existé. Ça reste encore aujourd'hui un personnage de fiction. Jacques Sas, lui, il a le mérite d'exister. Mais lorsqu'il va être mis en cause dans les années 70, il va assez rapidement produire d'abord un alibi en béton pour la nuit du crime. Et ensuite, il va discréditer les affirmations de Lucien Léger en se présentant comme un banal graphologue, graphométricien.
Alors, moi, effectivement, j'ai bien envie d'y croire parce que depuis le départ, je me suis inscrit dans une démarche de soutien. Donc, moi, j'ai cette faiblesse vis-à-vis de Lucien et j'en suis parfaitement conscient. Hein. Je sais que j'ai tendance à vouloir lui donner absolument du crédit. Néanmoins, bon, je suis pas non plus complètement stupide et je vois bien que cette histoire de réseau, elle n'est pas très très solide. En tout cas, il y a des choses qui sont peu crédibles. Le fonctionnement tel qu'il le décrit, il parle de, ils se réunissent dans un des appartements, il n'y a aucune cloison entre les uns et les autres. Ils se connaissent, ils font une espèce de voyage depuis Paris jusqu'à Budapest, un pays qui est encore derrière le rideau de fer, où les visas sont quand même pas simples à obtenir, où les contrôles sont nombreux, ils sont à trois dans la voiture. Enfin, bref, c'est quand même dur à avaler hein, tout ça. J'en suis très conscient. Et en même temps, Lucien Léger, quand il parle de Budapest, il parle d'un endroit qui s'appelle la Taverna, où ils sont allés, ben la Taverna existe.
Moi, je m'aperçois qu'on est en train de recréer comme un décor. Moi, concrètement, j'ai un disque dur qui est vraiment rempli de documents, de photos, de synthèses. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je passe à un autre niveau, c'est-à-dire un niveau que je qualifierais d'un peu obsessionnel. Je pense, je me lève, Lucien Léger, je fais ma journée, Lucien Léger, Luc Taron, je termine, je pense vraiment qu'à ça, quoi. Parallèlement à ça, on essaie de retrouver les derniers témoins. Parmi ces témoins, évidemment, il y a Jacques Sas. Mais c'est un témoin un peu particulier, puisqu'il est présenté par Lucien Léger comme le meurtrier de Luc Taron. Donc moi, je pars la bande en me faisant passer pour un passionné de graphologie, j'obtiens ses coordonnées téléphoniques, puisqu'il est sur liste rouge, et je l'appelle. On est en 2006. Je m'aperçois qu'on est voisins. Il habite rue des Montibœufs. Moi, j'habite avenue Gambetta, à Paris, tous les deux dans le 20e. Alors, au début, notre conversation, moi, j'avance un peu à pas feutré. J'avoue que je suis pas très fier de moi. Je parle d'abord graphologie parce que, bon, voilà, comme je me suis fait passer pour un passionné, je suis obligé d'en passer par là. Je m'aperçois, en l'ayant au bout du fil, d'abord, je m'adresse à un vieux bonhomme. Je me demande qu'est-ce qui m'a pris d'importuner un vieillard qui avait pas du tout besoin de ça. Enfin, bref. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire là. Et puis, évidemment, je me dis, bon, faut quand même que tu ailles jusqu'au bout. Donc, à un moment donné, je finis par enlever mes pantoufles et je mets mes gros sabots. Et j'aborde le cas Lucien Léger. Mon interlocuteur prend une espèce de voix très désagréable, des accents métalliques. Et très rapidement, il me dit « Mais qui êtes-vous? Où habitez-vous ?» Ça, je m'en souviendrai toujours. Deux questions. Qui êtes-vous? Où habitez-vous? Je lui donne mon nom, que je lui ai donné au départ. Je n'ai pas donné de faux nom. Je lui rappelle et je lui donne mon adresse. Il raccroche. Et là, j'ai peur. Je me dis « Qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que tu maîtrises vraiment tout ?» Ça dure quelques minutes, puis après je me reprends, évidemment, et puis je continue, j'en rencontre à Jean-Louis. Jean-Louis n'est pas très intéressé, je le sens, hein, par Jacques Sas. Ça ne lui parle pas beaucoup, hein, cette histoire. Et moi, je me dis, mais il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Quelque chose au fond de moi me dit, il faut que tu continues à gratter. Et on a eu ensuite une seconde conversation avec lui.
Donc là, c'est Jean-Louis Vanni.
Voilà, Jean-Louis Vanni prend son téléphone et l'appelle.
Alors, je l'appelle parce que je suis un journaliste, et je dis, mon projet, Lucien Léger, vous accuse d'être le véritable assassin, ou du moins l'un des principaux complices, de l'assassinat du petit Aaron, et qu'il a payé pour vous, et tout ça. Mais c'est un fou, mais c'est un fou. Et puis il commence à me raconter son passé de militant anti-nazi, et tout ça. Bon, d'accord, on continue. Et puis il me dit, si le livre paraît et que vous faites ces accusations-là, je vous accuserai. Je reçois une lettre recommandée avec accusé de réception, où il me dit qu'il va me faire un procès si jamais il y a ça dans notre livre que nous préparons et si jamais il sort. Et il me donne le nom de son avocat. Je ne réponds pas. Et puis je dis, tiens, mais c'est quoi cet avocat? Et je vais chercher. Et cet avocat était mort depuis 12 ans. Moi, à mon avis, c'est un génie vieillissant à ce moment-là. Mais il y a une part de mythomanie aussi, probablement, chez ce genre d'homme, enfin, je veux dire.
On peut dire que Sals et Lucien se sont bien trouvés, en quelque sorte.
Ah, mais moi, je pense qu'ils se sont bien trouvés. Et je me demande même si le fait de Lucien d'accuser Sals n'est pas une vengeance, quelque part. Une petite vengeance, un petit règlement de compte.
Lucien Léger sort de prison en 2005. On est même dans le van qui l'emmène depuis la prison jusqu'à son nouveau domicile. C'est la première fois qu'on se voit. C'est un moment un peu curieux. Évidemment, Lucien Léger, sorti de prison, il n'a pas le droit de s'exprimer publiquement sur les faits. Mais à nous, évidemment, entre nous, on discute de ce qu'on veut. Donc Jean-Louis et moi particulièrement, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes sur sa version, sur tout ça. J'ai d'autant plus d'attentes qu'on a retrouvé les traces de Jacques Sals, qui vit encore. Qu'est-ce qu'il compte faire? Bon, au début, il est un peu évasif, il nous dit « non, c'est encore un peu trop tôt ». Bon,